web, Juliette Rangeval.
Bonjour. Priorité à l'éducation. Dans les pays d'Afrique du Nord, d'importants progrès ont été enregistrés ces dernières décennies. Mais les bouleversements économiques, politiques et sociaux qui ont suivi les printemps arabes ont souvent été synonymes de perte d'apprentissage. Les enfants les plus pauvres, ceux qui viennent de pays en guerre, sont ceux qui restent les plus éloignés de l'école. Cette semaine, nous parlons des réfugiés soudanais en Égypte, poids lourd nord-africain, deuxième économie du continent. Et puis au Maroc, la ruée vers le privé concerne l'éducation générale, mais aussi l'éducation musicale. Et cela intéresse les grands acteurs privés internationaux. Nous partirons à Essaouira. La guerre, la faim et puis l'exil, la guerre civile qui fait rage au Soudan depuis avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes. Ceux qui ont cherché refuge dans les pays voisins ont fui vers le Tchad en majorité, mais aussi vers l'Égypte. Ils se retrouvent principalement au Caire, à Alexandrie et à Assouan, dans le sud-est du pays. Ils sont plus d'1 200 000 aujourd'hui et ils constituent plus des 2/3 des réfugiés en Égypte. Petit à petit, le climat s'est tendu. Face à l'arrivée de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, l'Égypte a durci les conditions d'entrée et de séjour sur son sol. Le Caire a aussi entrepris, depuis le mois de juin dernier, de fermer un certain nombre d'établissements scolaires qui suivaient le programme soudanais, ajoutant aux difficultés de ces réfugiés. Écoutez le témoignage de cette étudiante soudanaise jointe au téléphone. Elle et sa famille sont en Égypte depuis quelques mois maintenant. Elle a choisi de garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Au début, je n'étais même pas sûre de pouvoir poursuivre mes études. Lorsque je suis arrivée en Égypte, les inscriptions avaient déjà commencé. Il n'était donc pas du tout certain que j'obtienne une place à l'université. Comme j'ai déjà un diplôme d'études secondaires internationales, en principe, la situation était plus facile pour moi que pour quelqu'un qui aurait uniquement suivi le programme soudanais au cours de sa scolarité. Avant la guerre, il y avait un accord entre l'Égypte et le Soudan qui garantissait aux étudiants soudanais un traitement dérogatoire par rapport aux autres étudiants étrangers. Nos frais de scolarité, notamment, étaient réduits en tant que ressortissants soudanais. Mais depuis la guerre, il y a eu beaucoup de changements, qu'il s'agisse des frais de scolarité ou du taux d'admission. L'année dernière, j'ai pu payer les frais demandés. C'était les mêmes que ceux demandés aux étudiants égyptiens. Mais depuis, la politique d'inscription à l'université a encore changé. Et désormais, je suis considérée comme une étudiante étrangère en ce qui concerne les frais de scolarité. Alors moi, le seul obstacle auquel je suis confrontée est d'ordre financier. Mais la plupart des étudiants soudanais ont le mal du pays. Et beaucoup d'entre eux connaissent des épisodes de dépression à cause de la guerre et de ce qui se passe en ce moment au Soudan. En fin de compte, peu importe à quel point les gens sont accueillants, ils se sentent toujours un peu comme des parias.
And at the end of the day, no matter how welcoming people are, you still feel like an outcast.
Ça, c'est pour ce qui concerne l'université, qu'elle soit publique, privée. Comment ça se passe pour l'enseignement secondaire?
Eh bien, c'est un peu différent pour l'enseignement secondaire. Pour les étudiants qui suivent toujours le programme soudanais, l'année a été très difficile. Ils ont dû suspendre leurs études. Ce qui fait qu'actuellement, les lycéens soudanais qui passent l'examen pour leur diplôme d'études secondaires sont confrontés à de nombreux défis. Et la plupart de ces étudiants ne savent pas s'ils seront acceptés ou non dans les universités égyptiennes et à quel prix.
And most of these students do not know whether or not they'll be accepted into Egyptian universities and at what cost.
Par ailleurs, il ne reste plus beaucoup d'élèves qui continuent à étudier dans le cadre du programme soudanais, parce qu'au cours de l'année écoulée, l'Égypte a décidé la fermeture de nombreuses écoles soudanaises, et puis parce que les autorités ont mis en place des règles plus strictes en ce qui concerne ces établissements scolaires. Pour ces élèves, c'est difficile. Beaucoup d'entre eux ont du mal à s'intégrer dans le système éducatif égyptien.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour eux? Quels obstacles est-ce qu'ils rencontrent?
Ici, en Égypte, le système scolaire est surchargé et il y a beaucoup de compétition au sein des établissements. je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec l'origine ethnique, mais parce que le programme dans les lycées égyptiens est très exigeant. C'est très compliqué pour ces jeunes.
Et pour les enfants plus petits, ceux qui doivent aller à l'école primaire ?
À l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas aller à l'école pour des raisons financières. Leur famille manque de ressources. Quant à ceux qui vont à l'école, ils sont capables de s'intégrer. Mais ils sont encore très traumatisés et très marqués par la guerre et ce dont ils ont été témoins. Vous avez le mal du pays. Tout ce qui vous entoure vous rappelle combien votre maison vous manque. Et donc c'est très dur, peu importe à quel point vous essayez de vous intégrer et de passer à autre chose. C'est tellement dur, c'est très différent. Avant la guerre, bien sûr, certains quittaient le Soudan pour venir étudier en Égypte. Mais c'était très différent. Maintenant, on a l'impression d'être obligé d'être ici. Nous n'avons pas d'autre option. Nous ne pouvons pas être là où nous voulons être.
Et parmi ces Soudanais réfugiés, il y a plus de 135 000 enfants en âge d'aller à l'école. Pour en parler, nous recevons Graham Lang, il est le directeur adjoint du Fonds de l'ONU pour l'éducation en situation d'urgence, Education Can't Wait.
Entre 7 et 9 000 enfants arrivent chaque mois. On ne peut pas imaginer la pression à laquelle l'Égypte est soumise. La plupart des réfugiés soudanais résident dans des zones urbaines où les écoles sont déjà surchargées. Le gouvernement égyptien quand même accorde accès au système d'éducation publique aux réfugiés du Soudan du Sud, de Syrie et du Yémen sur un pied d'égalité avec les ressortissants égyptiens. Cependant, ces modalités d'accès nécessitent un permis de séjour valide qui peut prendre du temps à recevoir.
Ça veut dire que sur ces milliers d'enfants soudanais, notamment, qui arrivent chaque mois pour aller à l'école en Égypte, combien vont pouvoir aller vraiment à l'école et dans quelles conditions?
C'est très difficile. Nous savons que la moitié des réfugiés soudanais nouvellement enregistrés sont des femmes et que la majorité d'entre eux sont originaires de la capitale Khartoum, 86%, où les taux de scolarisation étaient historiquement plus élevés que dans certaines d'autres régions du Soudan. Il est donc tragique que plus que la moitié des enfants soudanais en Égypte maintenant ne soient désormais plus scolarisés. Les familles attendent les documents nécessaires, de sorte que de nombreuses familles de réfugiés soudanais ont choisi d'inscrire leurs enfants dans des centres d'apprentissage communautaires qui suivent le programme soudanais, mais qui ne sont pas reconnus par les autorités nationales, malheureusement.
Quels sont les obstacles pour pouvoir aller à l'école en Égypte? Vous disiez qu'il y a une question de permis à obtenir, mais est-ce que c'est la seule difficulté? Est-ce que ces enfants sont bien accueillis dans les écoles égyptiennes?
Non, en fait, il y a beaucoup de problèmes aussi pour les communautés hôtes ainsi que les réfugiés qui sont arrivés. Les enfants et leurs familles sont confrontés à une série de problèmes de protection, principalement. Les familles ont été séparées avec un nombre d'importants d'enfants non accompagnés et séparés et un nombre croissant de ménages dirigés par des femmes. Des nombres des enfants ont subi des traumatismes, vous pouvez imaginer, ils sont fuis d'une guerre civile en Soudan et les nouveaux arrivants, en particulier les femmes et les filles, sont vulnérables à la violence et ont besoin de services spécialisés de protection de l'enfance et de lutte contre les violences fondées sur le genre.
Est-ce qu'ils trouvent ce genre de service? Est-ce que ça existe? Vous, avec l'ONU, vous êtes capable de leur proposer ce genre de service pour les aider?
Oui, en fait, nous, on trouve qu'il y a beaucoup d'organisations sur place, les ONG nationales, par exemple, qui ont la capacité à réagir à ces problématiques. En fait, et nous, jusqu'à présent, on a investi 3 millions de dollars en Égypte et nous touchons plus de 37 1000 enfants dans les zones impactées et notre financement appuie les réfugiés à participer à l'éducation non formelle à travers ces centres d'apprentissage communautaire, de subventions en espèces et de cohésion sociale avec des communautés d'accueil et de santé mentale et un appui psychosocial et de bien-être pour les étudiants et les enseignants. Et de plus, des bailleurs de fonds des autres donateurs reconnaissent les besoins importants en Égypte actuellement. Le gouvernement britannique a annoncé une aide supplémentaire de 2 millions de livres sterling, environ 2,5 millions de dollars américains, à l'éducation en Égypte à travers l'éducation sans délai que nous allons immédiatement débourser.
Est-ce que ça suffit, cet argent ?
Non, toujours le problème avec l'éducation en situation d'urgence qu'on trouve en Égypte, mais partout dans le monde actuellement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'appui financier pour l'éducation en situation d'urgence. Par exemple, pour le plan régional de réfugiés soudanais, il y a moins que 30% qui est financé sur ce plan en général et beaucoup moins sur le secteur de l'éducation. Donc, c'est un grand défi pour nous, pour travailler avec nos bailleurs de fonds, pour mobiliser des financements supplémentaires dans un contexte très difficile, je veux dire mondialement actuellement.
Vous avez mentionné tout à l'heure, Graham Lang, les centres communautaires dans lesquels ces enfants soudanais notamment vont aller à l'école, puisque le système scolaire égyptien ne peut pas les accueillir. Est-ce que ces centres communautaires sont bien intégrés dans la société égyptienne ?
Bon, je pense que des centres d'apprentissage communautaire, c'est une réponse pragmatique. Si vous voulez, en Égypte, le système public est déjà surchargé. Les écoles n'ont pas la capacité d'accueil tous les enfants égyptiens.
Pour donner une idée, oui. C'est vrai qu'il y a des classes de 200 enfants en Égypte dans le système public.
Oui, bien sûr. C'est un système éducatif qui était déjà sur beaucoup de pression. Et de plus, on a des réfugiés qui sont nouveaux arrivés et qui mettent un peu plus de pression sur ce système. Il y a toujours les difficultés entre les communautés qui hébergent les réfugiés et ceux qui sont déplacés. Nous, on met beaucoup d'efforts là-dessus pour assurer que l'appui est également diffusé entre ceux qui sont arrivés et ceux qui sont déjà là, ceux qui sont hébergés, les arrivés. Donc, pour les centres d'apprentissage communautaire, ils vont effectivement répondre à toute la population, soit la population qui s'est déplacée, soit la population qui était déjà là. Donc, c'est toujours quelque chose à voir pour l'avenir.
Graham Lang du programme de l'ONU pour l'éducation en situation d'urgence.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval.
Carrefour du Maghreb vous emmène à Essaouira au Maroc en marge du festival de musique Gnawa. Berkeley a organisé en juin dernier une masterclass payante à destination de musiciens expérimentés, une manière pour la prestigieuse école de musique de Boston de mettre le pied sur le continent africain. 5 jours pour apprendre des plus grands professeurs. C'est l'heure de monter sur scène. En début de semaine, aucun de ces musiciens ne se connaissait. Il a fallu apprendre à jouer ensemble des instruments très différents en venant de cultures musicales très différentes. L'art de la fusion ne s'acquiert pas en un jour, même pour des musiciens aguerris. Karim Ziad est l'un des directeurs artistiques du festival. C'est aussi un batteur de légende qui se souvient de tout le travail accompli.
Moi, j'ai appris franchement sur le tas, c'est-à-dire que j'ai aimé cet instrument. Mon père m'a acheté une première batterie. J'ai commencé à jouer en écoutant de la musique. Après, j'ai commencé à faire le métier de batteur en faisant des cafés-concerts, en faisant des mariages, que ce soit des mariages à l'européenne ou à la maghrébine. Donc moi, je me suis fait un peu tout seul, mais effectivement, quand je suis arrivé en France, je me suis inscrit à l'école d'Emmanuel Bourceau et au conservatoire de Fontenay-sous-Bois, pour pouvoir lire une partition, pour pouvoir comprendre les termes et la musique. Voilà, et donc ma première école, ça a été vraiment l'école orale.
Karim Ziad souhaiterait voir Berkeley installer de manière permanente un campus à Essaouira, mais c'est déjà un défenseur acharné de ce type de formation. Qu'est-ce que ça apporte, une école comme Berkeley ?
Tout le bagage américain, c'est-à-dire tout le côté scientifique, si je peux dire. Tout le côté où on est obligé de passer par des écoles pour comprendre l'harmonie, par exemple, toutes les techniques musicales, les arrangements, la production, ça on ne peut pas l'apprendre tout seul.
Adil aussi est batteur. Au sein d'un groupe de fusion, Oba Oba Spirit, il est aussi professeur au studio des arts vivants de Casablanca, mais cette fois, il est dans le rôle de l'élève.
La musique africaine en général, elle est sur la pulsation, sur la monotonie rythmique. Ils nous ont appris à les utiliser différemment. Par exemple, moi je vais jouer à mes rythmes gnawa, mais je ne vais pas jouer comme j'ai jamais joué en fait. Je vais jouer doucement. Et je vais jouer en écoutant ce qui se passe et en changeant aussi d'instrument quand il y a un solo, tu accompagnes tes solos avec tel cymbale, les articulations, la syncopation. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de respiration dans la musique parce que je t'ai dit, c'est la monotonie, c'est la pulsation et tout. Bien sûr, il y a des musiques spirituelles, il n'y a pas de rythme, ça respire et tout. Mais voilà, en tant qu'Africain, on est plus dans la pulsation, la danse, le rythme en fait.
L'investissement est conséquent pour les étudiants, environ 400 euros pour la formation, voyage et logement à leur charge. Alors à quoi ça sert ces 5 jours de formation ?
La première chose, pour jouer mieux avec mon groupe. Deuxième chose, pour me faire plaisir et jouer d'autres musiques que moi j'aime, je joue tout seul ou avec des copains. Et aussi, ce qui est magnifique, c'est pour la rentrée, mes élèves au studio des arts vivants à Casablanca, je leur amenais de la matière fraîche, quoi. De nouvelles recettes. Et c'est bénéfique pour eux aussi, je veux partager ça aussi avec mes élèves.
Et du côté de la Berklee School of Music, ce type de formation, c'est aussi une manière de mettre le pied sur le continent africain, de mieux connaître son industrie musicale en effervescence. Maria Martinez Iturriaga est la vice-présidente du département monde de Berklee.
C'est une région qui est en train de grandir au niveau surtout des marchés, et l'influence de la musique du nord de l'Afrique est très grande dans des autres musiques commerciales, et la fusion est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec la musique pop, le hip-hop, le rap. C'est très intéressant pour nous de aussi comprendre, pas seulement au niveau musical, mais aussi au niveau de production, au niveau de l'industrie, comment est-ce que c'est ce qui se passe au Maroc. C'est un signe de le développement de l'industrie dans cette région. Donc Berklee, on étudie la musique au niveau des performances, mais aussi on étudie tous les sujets qui font partie de l'industrie. Donc les business, des productions, d'ingénieurs de son, de musicothérapie, de musique pour films, jeux vidéo. Donc on voit la musique dans toutes ces facettes de l'industrie. C'est la première fois qu'on est ici, mais bien sûr déjà, je commence à penser toutes les choses qu'on peut faire ici et comment est-ce qu'on peut participer de le développement de l'industrie musicale et de la professionnalisation de l'industrie ici.
L'école basée à Boston a déjà ouvert des campus à l'étranger, en Espagne, à Valence par exemple, avant de se lancer à la conquête du monde arabe avec un centre à Abu Dhabi dans le Golfe. Et elle regarde très sérieusement désormais le continent africain. Got a Woman avec les élèves de la masterclass de Berklee à Essaouira. Et pour aller au prochain festival des musiques Gnawa, où vous l'entendez, on joue aussi du blues, retenez ces dates, ce sera du 19 au 21 juin prochain, c'est la 26e édition. Carrefour du Maghreb, à la réalisation, Françoise Grelot.